Activité physique, nutrition, entraînement, santé mentale, expérience de vie. Voici le balado En action. Une production du groupe Défi. Dans 3, 2, 1, action!
Salut, aujourd'hui on rencontre Kevin Arsenault, kinésiologue. Salut Kevin!
Salut Daniel, comment ça va?
Très bien, toi?
Oui, super bien.
Yes. Kevin, ça fait longtemps que tu t'entraînes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton background? Comment tu as commencé ça, l'entraînement? D'où tu viens finalement? Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire ce que tu fais aujourd'hui?
En fait, je viens de Baie-Comeau sur la Côte-Nord, puis il n'y avait pas de kinésiologue à l'époque à cet endroit-là, puis il doit en avoir très peu en ce moment, c'est quand même une région éloignée. J'ai commencé, ça fait 21 ans que je suis dans le domaine, donc j'ai commencé, j'avais 13-14 ans, plus 13 ans, j'ai commencé à m'entraîner à la maison. Donc je faisais des redressements assis, des push-ups, j'avais un petit surpoids, fait que je voulais m'aider à changer, me transformer physiquement, donc j'ai commencé à m'entraîner à la maison. Puis après ça, quand j'ai rentré au secondaire, il y avait une salle d'entraînement qui était là. Fait que les midis, je pouvais aller m'entraîner. Donc là, j'ai commencé à m'entraîner 3 fois semaine. Puis quand j'ai eu l'âge de 15 ans, là, j'avais le droit d'aller au gym. Donc c'était là 15 ans, l'âge minimal, donc j'avais très hâte. J'ai commencé à m'entraîner au gym à mes 15 ans. Plus sérieusement, je me suis fait encadrer, puis j'ai vraiment développé une passion, puis mon physique a changé. J'ai quand même une bonne génétique de base. Mon grand-père a été champion nord-américain en haltérophilie, donc les arrachés, clean and jerk, etc. Donc, il y avait un bon physique. Puis, je me suis entraîné à 15 ans, puis vers la fin de mes 15 ans, un des entraîneurs du gym où je travaillais a décidé de quitter. Et là, le propriétaire voyait que j'étais quand même sérieux. C'est pas la main-d'œuvre qui pleut nécessairement dans cette région-là. Donc, il me demande, Kevin, tu es un jeune sérieux. Je vois que tu es discipliné, puis tu es responsable. Est-ce que ça te tenterait de devenir entraîneur chez nous? Donc, là, j'ai 15 ans et 3 quarts. Là. Donc, je suis tout jeune, tombé dans un monde d'adultes pour enseigner à des gens comment s'entraîner. Fait que j'ai embarqué. Fait que j'ai embarqué dans le projet. Je suis devenu entraîneur à 15 ans, presque 16. Puis après ça, j'ai donc 16 ans, 17, j'ai fait mes sciences de nature au cégep de Baie-Comeau. Puis après ça, quand je me suis assis pour décider quel allait être mon avenir, je me suis dit, est-ce que je fais de ma passion mon métier ou ma passion sera ma passion et mon loisir et j'aurai un autre métier, ingénieur ou quoi que ce soit. Puis j'ai décidé d'aller en kin. Donc quand j'ai embarqué au bac en kinésiologie à 20 ans, donc ça faisait déjà 5 ans que j'étais entraîneur. Donc, ce qui fait que là, j'en ai 36. Donc, ça fait 21 ans que je suis dans le domaine. Mais tout ça a commencé par un petit surpoids. Je veux m'entraîner. Je m'entraîne à l'école. Je m'entraîne au gym. Puis là, le poste s'ouvre. Je suis là. Puis j'ai décidé de continuer avec une belle expérience. Puis j'ai pas de regrets.
Ah, ben c'est cool. C'est vraiment une belle histoire. Puis ça fait vraiment longtemps que tu fais ça. C'est très cool. Je pense que c'est la personne que je connais qui est entraîneur dans un gym depuis le plus longtemps, à l'âge de 36 ans, là. Fait que c'est très cool. Moi, je suis vraiment content de te rencontrer parce que je pense que dans mon réseau là, de gens en kin et tout ça, je pense que tu es le meilleur là, que je connais pour parler du sujet dont on va parler aujourd'hui, les protéines. Fait qu'on va parler un petit peu des suppléments en protéines. Puis tu as aussi étudié en nutrition. Fait que
tu
es bien placé pour en parler, là.
Oui, autant que j'ai évolué dans le monde du culturisme, donc ce fait que la rigueur alimentaire doit être là, l'interrogation au niveau des suppléments alimentaires est présente. Puis voulant en savoir plus, j'ai suivi après le bac en kinésiologie, mon bac en nutrition, l'Université Laval. J'ai fait un diplôme d'études supérieures aussi en nutrition. J'ai fait ma maîtrise en entraînement, puis j'avais commencé mon doctorat en nutrition juste avant la pandémie, donc en janvier 2020, 3 mois après la pandémie sonnait. Donc, ce qui fait que je l'ai mis de côté, puis je ne l'ai pas repris. Donc, ce qui fait que j'ai d'autres projets qui se sont développés à côté. Donc, j'ai vraiment un grand intérêt. Donc, oui, l'entraînement et la nutrition font partie de mes grandes lectures là, sur le sujet. Puis, je voulais aborder ce sujet-là au niveau des protéines, parce que ça reste pour moi un sujet quand même de base, mais c'est un sujet qui est toujours soit controversé ou qu'il y a beaucoup de questionnements à l'intérieur de la question des suppléments au niveau des protéines en poudre.
Oui. Bien, d'ailleurs, je vais commencer. Ma première question, c'est, on entend souvent dire qu'on n'a pas besoin de prendre de protéines en poudre ou de suppléments de ce style-là parce que une alimentation normale va subvenir à nos besoins en protéines. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que c'est vraiment un avantage?
Bien, en fait, première des choses, c'est quoi une alimentation normale? Donc, ce qui fait que les gens prennent pour acquis qu'on sait comment manger, mais personne ne nous a appris à manger. C'est que c'est un peu le point que combien de protéines je devrais manger par jour, combien de calories je devrais manger par jour, combien, c'est quoi l'alimentation normale que je devrais ingérer? Personne ne nous l'apprend. Donc, de se reposer sur ces bases-là, de se dire, je dois manger une alimentation saine et normale, mais c'est quoi? Ça repose sur quoi? C'est-tu 50 grammes de viande, 100 grammes de viande? Est-ce que c'est pas de viande, mais j'intègre du tofu ici, mais quelle quantité? Fait que c'est là que c'est de se dire, est-ce que si je mange une alimentation normale, je n'ai pas besoin de suppléments? Tu sais, pour moi, il manque un gros point d'interrogation parce qu'on n'est pas assuré d'avoir les quantités nécessaires. Quand les données au niveau scientifique, on voit que quand on atteint un certain nombre de grammes de protéines par jour, on est capable d'aller chercher des résultats. Donc, il faut que ça soit un peu plus quantifié. Si je laisse mon alimentation au hasard, ça veut dire que les résultats sur mon physique vont être au hasard aussi. Donc, ça fait que c'est un peu le point. Et sur l'aspect des suppléments de protéines, est-ce qu'on... C'est sûr que ça reste un supplément, mais c'est pas comme n'importe quel ou tous les autres types de suppléments. Un supplément, exemple, de créatine, un supplément, je sais pas moi, d'oméga 3, un supplément, ça reste que ça, c'est des suppléments isolés. Un supplément de protéines, c'est quoi? C'est du lait déshydraté. Donc, ce qui fait que c'est, si on s'en va dans les, exemple, dans les hôpitaux, on va avoir du lait déshydraté. C'est des grosses poches de lait qui est déshydraté. Puis qu'on va donner aux personnes âgées, exemple, qui ont les dysphagies. Donc, qui ont de la difficulté à avaler des aliments solides. Donc, on va prendre ce lait-là, déshydraté, on va le mettre en solution pour qu'ils soient capables d'avoir une source de protéines intéressante, pour être capable de les nourrir, donc avoir un niveau. Mais ça, ce sac-là, si je vous le présente, ça, on ne fera pas de tollé avec ça parce que c'est marqué lait évaporé, ça sent bien. Mais si je le mets dans un pot avec des éclairs marqués muscle mass, ben là, c'est là qu'on vient dire, wow, ben là, tu n'as pas besoin de ça. Mais à l'inverse, quand un enfant a besoin, exemple, parce que la mère ne peut pas allaiter, on va donner Enfamil, Enfalac, Nutramigène. Donc, c'est quoi ça? C'est des protéines en poudre. Donc, c'est du lait déshydraté aussi qu'on vient à donner. On donne des chèques de protéines à nos enfants. Donc, c'est juste que la perception. Tout est une question de perception au niveau de l'image qui est en arrière de ça. Donc, les gens associent beaucoup les protéines en poudre aux stéroïdes anabolisants. Donc, c'est beaucoup présent dans le domaine du culturiste. Donc, ce qui fait que les gens voient... Ah, le gros gars qui est là prend des protéines en poudre, mais il est sujet à des maladies cardiaques, etc. Fait qu'on fait un lien erroné entre les deux, tandis que la protéine, c'est carrément un aliment. Lorsque la protéine en poudre est créée, en vrai, c'est que le Saputo, qui est le plus grand distributeur ici au Québec au niveau des protéines en poudre, va faire du fromage. Et lorsque le fromage est fait, il y a un petit liquide clair qui sort à côté. Ça, c'est le petit lait, c'est le lactosérum. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ce liquide-là, puis ils vont l'évaporer. Puis là, ça va créer la première matière qu'ils vont envoyer à toutes les compagnies pour qu'ils soient filtrés, déshydratés, qu'ils mettent de la saveur, des colorants, peu importe, pour donner le brand au niveau de la compagnie. Donc, c'est un peu comme ça que ça part de l'alimentation. Donc, de dire que je n'ai pas besoin, exemple, de protéines en poudre, c'est comme si je pouvais dire, vu que c'est un aliment, je pourrais dire, ben Dan, tu n'as pas besoin de banane pour aller chercher des glucides. Ben effectivement, j'ai pas besoin de banane. T'as bien raison. Je peux prendre je peux prendre des pommes, je peux prendre des oranges, je peux manger du riz. Ça reste que la banane est un choix qu'on peut choisir. Donc, la protéine en poudre, c'est un choix, au même terme qu'une viande, qu'un poisson, qu'un morceau de tofu, que ce soit des œufs, produits laitiers. Donc, ça reste un choix. Ça reste une option qui peut se présenter à nous.
Donc, si on en revient aux besoins, là, est-ce qu'on en a besoin ou est-ce qu'on n'en a pas besoin? Puis c'est quoi les besoins en protéines pour quelqu'un qui fait beaucoup de muscu?
Bien, en fait, pour les besoins au niveau de la personne, c'est une bonne question. Quand on parle d'un besoin, là, il y a des normes qui sont établies. Par exemple, souvent, on va aller par le poids de la personne. Donc, 1,8 g par kilogramme de poids de corps. Par exemple, une personne pèse 100 kg, 80 g par journée serait le repère de base pour avoir un minimum, pour essayer d'assurer le maintien des fonctions au niveau du corps. Donc, le corps, lui, a un turnover. Donc, on va dire qu'il y a une dégradation, reconstruction au niveau de tous les tissus protéiques. Donc, on parle que ce soit les reins, le foie, les muscles, les tendons, les ligaments, etc. Donc, ce qui fait qu'on a besoin d'avoir un minimum pour assurer ces besoins-là. Puis, ce point 8-là est même remis en discussion. Ça fait longtemps qu'il a été établi. Plusieurs chercheurs actuellement mentionnent plus du 1,2 g. Donc, au lieu de 80 g pour une personne de 100 kg, plus un 100-120 g serait l'idéal pour aller chercher une phase de maintien. Après ça, les recherches ont été faites pour analyser est-ce que si je veux prendre la masse musculaire ou je veux perdre la masse adipeuse, est-ce que je dois augmenter mes besoins en protéines? Est-ce que ça a un impact favorable? Puis on se rend compte que oui. Donc, mais ce n'est pas si élevé que ça. Donc, une personne, si on dit 1,2 au niveau sédentaire, une personne qui s'entraîne devrait viser au moins 1,6. Donc, on n'est pas si élevé. Et pourquoi on n'est pas si élevé? En vrai, c'est le simple fait que si on prend en calcul le coût que ça prend au niveau protéique pour construire une livre de masse musculaire, on se rend compte que c'est pas tant que ça. Parce qu'en vrai, un muscle, c'est constitué à peu près à 22 % de protéines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 g de muscle, j'ai 22 g de protéines. Le reste, ça va être du glycogène, ça va être d'autres structures pour créer du tissu conjonctif, donc des éléments qui constituent le muscle. Il va y avoir de l'eau aussi à l'intérieur. Donc, ça veut dire que si je veux construire une livre de masse, une livre de masse musculaire, c'est 454 g, ça va me prendre à peu près 100 g de protéines, donc 22 x 4,5, donc à peu près 100 g de protéines qui va totaliser ma livre de muscle réellement. Donc, si je veux prendre une livre de muscle dans un mois, ce qui est quand même assez rapide, il me faut 100 g sur ce mois-là de plus pour être capable d'aller assouvir ces besoins-là. Donc, si je prends ce 100 g-là et je le divise par 30 jours, ça me donne 7 g par jour. C'est un calcul juste pour illustrer. Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, ouais. Parce que le corps en a besoin un peu plus. Mais c'est juste pour dire que si je donne un 7 g supplémentaire par jour pour être capable de se construire ma masse musculaire, ben je vais en avoir suffisamment pour bâtir mon muscle si ce 7 g-là en totalité s'en va. Mais il y a tous des concepts d'assimilation. On n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on assimile. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un apport un peu plus grand pour être capable d'aller chercher cet apport-là, donc ce 7 g-là. Mais 1,6 g, c'est déjà un bon minimum. Mais idéalement, ce n'est pas parce que c'est fixé comme minimum qu'il faut rouler au minimum. Donc, pour moi, j'aime mieux qu'on vise un bon repère de base, ce serait le poids en livre. Donc, si on pèse 200 livres, 200 grammes. On pèse 150 livres, 150 grammes. Donc, c'est déjà un bon repère pour s'assurer d'avoir les besoins idéaux pour être capable de construire la masse musculaire. Puis, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que dans les derniers 30 ans, on a fait la guerre au gras, qui a été une grande erreur parce que les produits se sont ramassés tout sucrés. Là, on fait la guerre au sucre, mais les deux vont s'obstiner. Donc, les deux vont s'alterner un et l'autre. Est-ce qu'on coupe les gras ou on coupe les sucres? Est-ce qu'on coupe les carbs, donc les keto, etc.? Fait qu'on est là-dedans. Mais les protéines sont toujours un peu en retrait. Puis si les protéines étaient si dangereuses, on les aurait mis sur le plancher des vaches en montrant, en les pointant du doigt en disant, là, il faut vraiment faire attention. Mais ça ne semble pas être une grande problématique au niveau de la santé, au niveau des problématiques de poids, parce qu'on les pointe jamais du doigt. Puis effectivement, c'est pas un macronutriment qui a un grand impact néfaste. Au contraire, on se rend compte que plus, justement, on consomme de protéines à un certain niveau, en haut de 1,6, on n'a pas d'avantage d'en consommer plus, mais c'est pour ça que l'objectif d'en consommer le poids en livre, qui est 2,2, on s'assure de ne pas en manquer. On se rend compte, ce que je disais, c'est que quand on veut, par exemple, perdre la masse adipeuse, les chercheurs mentionnent de prendre encore plus. Fait que ce qui est un petit peu drôle, c'est quand on veut prendre la masse musculaire, on va prendre en haut de 1,6, mais si on veut perdre la masse adipeuse, il faudrait en prendre en haut de 2,5. Donc, on aurait pensé l'inverse. Quand je veux prendre la masse musculaire, il me faut plus de protéines, mais c'est parce que les protéines ont un grand impact au niveau de la satiété. Donc, ça coupe la faim. Et on se rend compte que les personnes qui... Oui, tu avais une question?
Ben justement, en lien avec ça, là, si je prends justement mes protéines de façon liquide, l'impact sur ma satiété est un peu moins grand, non?
Faux. Si on prend, exemple, si on prend des glucides ou des grosses formes liquides versus solides, il y a un impact qui est différent. Donc, le liquide va digérer plus rapidement, puis on va avoir une plus grande satiété rapide, on va avoir une plus grande faim rapidement. Tandis que les protéines, ce qui a été étudié, c'est surtout au niveau des protéines en poudre. Alors, en vrai, les protéines en poudre, c'est lui qui a le plus fort impact au niveau de la satiété, plus que manger une poitrine de poulet. Donc, c'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est que d'avoir les protéines de la whey va avoir un impact. Donc, c'est que c'est là un peu l'aspect favorable dans un contexte de perte de masse adipeuse, c'est que si je suis intégré plus de protéines, j'ai moins faim. Donc, ce qui fait que je vais manger moins de calories dans ma journée. C'est comme un peu, j'avais regardé une étude qui avait analysé les sauterelles mormones. Donc, je ne sais pas si tu connais les sauterelles mormones, c'est des sauterelles qui sont cannibales. Ils avancent dans leur chemin puis ils viennent à se manger l'une et l'autre. Donc, ils ont un besoin. Les chercheurs se posaient la question pourquoi ils venaient à avoir ce cannibalisme-là durant le processus. Puis, ils les ont soumis à des pastilles qu'ils mettaient devant eux dans leur chemin. Soit c'était juste des glucides, soit c'était des protéines, soit c'était un placebo, soit c'était des protéines glucides de mélange. Ils se sont rendus compte que les sauterelles s'aggloméraient vraiment autour des capsules de protéines. Donc, c'est là un peu l'hypothèse qu'eux, ils se sont dit, est-ce que ça se peut que même nous, en tant que mammifères, on évolue dans la vie, mais et dans nos journées, en essayant de combler un premier niveau de protéines? Donc, on va avoir un seuil. Donc, si, exemple, dans ma journée, je ne mange pas de protéines. Donc, veux pas, le corps est composé une très grande partie au niveau des protéines. On tire nos tendons, les muscles, les ligaments, les enzymes, il y a des hormones aussi, les neurotransmetteurs. Donc, on est vraiment constitué une grande partie au niveau des protéines. Les lipides, eux, ont d'autres rôles au niveau des hormones stéroïdiennes, les phospholipides, c'est les membranes cellulaires. alimentaire. Donc, au niveau de toutes les cellules, les gras sont là, la bile au niveau de la digestion des graisses. Les glucides, pas tant. Donc, ce qui fait que si, exemple, c'est plus un côté énergétique. On en a besoin, mais ce n'est pas une priorité. Si, exemple, je consomme beaucoup de glucides dans ma journée ou beaucoup de graisse, mais que je mange très, 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 très peu de protéines, on se rend compte que l'appétit est très élevé. Donc, est-ce que cet appétit-là est là parce qu'elle mentionne au corps que oui, tu as mangé certains aliments, mais on n'a pas assouvi un besoin minimal de protéines pour être capable d'assurer une récupération de mon foie, de mes reins, de mon pancréas, récupération musculaire pour assurer certaines survies, la synthèse de neurotransmetteurs. Donc, c'est une hypothèse qui, pour moi, ça s'appelle la théorie aminostatique, que je trouve vraiment intéressante parce que ça me dit, puis sur le terrain, ça fonctionne. Quand on augmente les protéines, la faim se stoppe, la satiété est là. Quand les protéines sont basses, les gens vont manger un spaghetti, par exemple, une heure après, ils ont faim. Ils n'ont pas besoin de ces calories-là supplémentaires. Ils viennent de manger. Donc, c'est juste le fait. Mais si on ajoute une source de protéines plus élevée, oh, on coupe la faim. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à se dire, oh, OK, les protéines devraient être un peu plus mises de l'avant. Puis, en démonisant la whey, ce que je trouve triste, c'est que les gens s'empêchent de l'utiliser dans la cuisine au quotidien. Parce que si on faisait des recettes de muffins, des recettes de bartende, pour mettre un petit scoop de protéines à l'intérieur, on aurait des aliments qui sont beaucoup plus riches en protéines, donc avoir un effet de satiété plus grand. Donc, ce qui fait que durant la journée, on consommerait moins d'aliments. Donc, ça viendrait avoir un petit win sur notre bilan de la journée au niveau calorique parce que les gens bougent moins aujourd'hui, surtout avec le télétravail qui est de plus en plus présent, et mangent plus et plus d'aliments transformés qui souvent sont moins riches en protéines, qui nous donnent plus faim, on a tendance à grignoter plus le soir. Donc, les protéines, pour moi, ça a vraiment un impact là, favorable à ce niveau-là. Donc, pour les besoins, comme je suis un petit récapitulatif, là, 1,2 g par kilogramme pour une personne sédentaire, en haut, 1,6 idéalement le poids en livres. Et pour les personnes qui veulent perdre la masse adipeuse, ils n'ont pas augmenté, même encore un peu. Là. Puis, il n'y a pas de danger. Des fois, les gens vont me dire, ça va endommager tes reins si tu prends trop de protéines. Un rein, c'est fait pour être filtré. Un rein en santé n'aura pas de problématique. Un rein qui est malade, c'est autre chose. Mais il faut faire attention au sel, il faut faire attention au sucre, il faut faire attention, ce n'est pas juste les protéines, c'est tout ce qui est grosses molécules que le rein doit filtrer qui est à faire attention. Même au contraire, une personne qui ne consomme pas assez de protéines, le rein est composé de protéines. La structure du rein, c'est des protéines. Donc, souvent, les gens qui ne consomment pas assez de protéines, mais qui ont des problématiques, qui ont des insuffisances rénales, on va devoir augmenter leur niveau de protéines. Donc, c'est là qu'on voit que ça n'a pas de sens de dire qu'on va couper les protéines pour le danger rénal.
Puis, l'efficacité de ça sur la prise de masse musculaire, est-ce que c'est élevé? Entre quelqu'un, mettons, deux personnes, là, qui a deux jumeaux, mettons, là, qui auraient la même génétique, mais il y en a un, mettons, qui va manger son poids en livres par jour en grammes de protéines, puis l'autre, mettons, qui va il va manger 1,2 g par kilogramme de poids de corps de protéines par jour. Y a-t-il une différence dans la prise de masse musculaire? C'est quoi l'impact en chiffres, là, si on veut, de ça?
J'ai pas le pourcentage exact. J'ai toujours vu, quand j'analysais les études, je voyais vraiment la différence qui était là. Est-ce que c'est 10, 15, 20 % 30 % ça dépend toujours de la durée. Et c'est multifactoriel. Donc, c'est pas parce qu'on prend un haut niveau de protéines qu'on va assurément avoir un gain de masse musculaire. Donc, prendre de la masse musculaire, c'est complexe. Il y a une question de testostérone aussi. Là, pourquoi les hommes en gagnent plus que les femmes? Il y a une question de sommeil. Si je peux pas bien dormir, si je suis sur des quarts de travail de jour, de nuit, ça rend la récupération musculaire plus difficile. L'hydratation. Donc, un muscle qui est bien hydraté, et permet la synthèse protéique beaucoup plus élevée. Et c'est un grand fléau de société. L'hydratation, les gens ne consomment pas assez d'eau. Ça a l'air très niaiseux et banal. Juste de l'eau pourrait faire une si grande différence. Mais oui, il faut se donner le mandat de boire assez d'eau. Si on s'en va devant un miroir et on fait une expiration, on va voir qu'il y a une condensation d'eau qui se passe dans le miroir. Donc, à chaque respiration, je perds de l'eau. Donc, c'est multifactoriel. Donc, ce qui fait que ce n'est pas juste à cause qu'on se dit « je consomme ma quantité de protéines » de façon suffisante que je vais assurément avoir un gain de masse musculaire. Mais si on le fait, on risque d'avoir un plus grand gain parce qu'on met cet élément-là de l'avant. Après ça, on contrôle notre sommeil, notre stress de vie, notre alimentation, etc. Puis là, ça devient un win. Sauf que c'est pas juste aussi une quantité de protéines quotidienne. Il faut un timing qu'on appelle, donc on va placer les protéines à la bonne place. Par exemple, si je m'entraîne et je prends des protéines directement après l'entraînement versus je décide de prendre de l'eau et de ne pas en prendre et je vais en prendre 3 heures après l'entraînement. Ce qui se passe, c'est que si j'avais pris mes protéines directement après l'entraînement, j'aurais eu 3 fois plus de synthèse de protéines, de tissu musculaire que si j'attends 2 à 3 heures. Là, j'ai pris la même quantité. Sauf que j'ai une différence nette et bien présente sur la quantité de muscle que j'ai pu synthétiser. Pire que ça, si je prends mes protéines avant l'entraînement, on a toujours l'image de la personne qui s'entraîne et qui, une fois l'entraînement terminé, va venir prendre son chèque de protéines. Mais les études se sont posées la question, oui, mais si je le prends avant? Donc, pendant l'entraînement, le processus digestif est entamé et quand on arrive après l'entraînement, les acides aminés, donc les protéines, sont déjà dans le sang et peuvent entamer la récupération. Est-ce que ça a un effet favorable, neutre ou défavorable? Puis on se rend compte que si je les prends avant, j'ai 4 fois plus de synthèse protéique qu'après. Donc, ce qui fait que là, en ce moment, avec la littérature, on nous suggère de prendre durant l'entraînement ou juste avant une source d'acides aminés ou de protéines pour être capable de favoriser. Ça, c'est l'optimal. Après ça, que la personne le prenne après ou avant ou ça, selon les circonstances, puis encore, ça dépend toujours du sport. Prendre une protéine durant l'entraînement, si on parle des sportifs de CrossFit, par exemple, qui sont des entraînements très intensifs, une protéine, si on le met dans exemple, si on prend du lait puis on le met au malaxeur, ça va faire quoi? Ça va faire de la mousse. Donc, ça va venir à créer un côté fouetté comme on voit dans les cafés. Donc, si je me prends un shake de protéines durant l'entraînement puis je vais faire un entraînement très intensif où je cours partout, je saute partout, si je veux pas, le lait va brasser dans un milieu qui est acide et ça va créer, des fois, on peut avoir le goût de vomir. Donc, là, c'est pas une bonne idée. C'est là qu'on peut se retourner vers différents types d'acides aminés. Il y a les BCA, les EA, il y a des éléments comme ça qui n'auront pas cet effet-là. Donc, c'est un peu ça le point.
OK. C'est vraiment intéressant l'histoire de prendre des protéines avant. Est-ce que ça veut dire que de prendre des pré-workouts, c'est une bonne idée pour quelqu'un qui voudrait prendre de la masse musculaire? Je sais que souvent, ça contient de la caféine, puis pour moi, c'est comme un peu...
Non, exactement.
Non, c'est de pas... prendre la caféine avant?
Mais ben, ouais. Ça devrait être réservé seulement aux entraînements qui sont... ponctuel ou ce que on n'a pas besoin de pre-workout. Puis quand je dis pre-workout, c'est des suppléments qui vont avoir soit un haut dosage de caféine pour le côté stimulant. Donc, des gens qui, des fois, qui s'entraînent à 5 heures le matin, peuvent avoir un peu plus de la difficulté. Donc, ils veulent s'aider pour... Mais ça ne devrait pas être à chaque entraînement. Je peux comprendre un entraînement de jambes qui demande beaucoup d'énergie, de motivation, mais un entraînement de bras, par exemple, ou même de haut de corps, là, on devrait être capable d'être non dépendant de ça. Puis, il y a un côté aussi des pré-workouts qui sont avec de l'arginine ou de la citrulline qu'on appelle. Donc, ce qui fait que ça va avoir un effet vasodilatateur. Donc, ça, les gens vont le prendre pour avoir un bon effet durant l'entraînement. Donc, c'est une sensation de pompe musculaire. On va le prendre, les muscles, il y a plus de sang qui arrive aux muscles. Ça ne donne pas plus de gain de masse musculaire, mais ça donne un bon feeling, un bon sentiment durant l'entraînement. On sent, surtout chez les hommes, on sent un engorgement de sang dans les bras, dans les pectoraux, Donc, ce qui fait qu'on aime le feeling. Fait que c'est juste pour ça. Donc, c'est plus un supplément de plaisance qu'un supplément qui va assurer des gains. On est beaucoup mieux de prendre soit une protéine ou des acides aminés durant l'entraînement que de prendre un pré-workout avec caféine et autres. Ou le garder seulement pour des entraînements plus spécifiques, plus intensifs.
OK. Fait que c'est pas complètement inutile un pré-workout, mais c'est pas quelque chose que tu recommanderais dans ta pratique de tous les jours.
Non, exactement.
OK. Puis, comment est-ce qu'on fait pour déterminer si la protéine qu'on s'en va acheter, là, exemple, je ne sais pas si tu as une compagnie en tête, mais mettons, comment je fais pour savoir que c'est une protéine qui est de bonne qualité, que c'est une protéine qui est complète? C'est quoi que je dois regarder sur le pot, là, finalement?
En fait, quand tu viens à acheter une protéine en poudre, il faut que tu regardes de un, parce que quand on compare les produits, il faut regarder la quantité. C'est la première chose à faire. Quand on regarde, exemple, deux produits comparatifs, il faut que la quantité par scoop soit la même. Parce que je peux regarder deux produits, puis l'un qui a 23 grammes de protéines, l'autre en a 27, puis on fait « Ah, je vais prendre lui de 27 ». Mais si lui de 27, c'est un scoop de 40 grammes, puis lui de 23, c'est un scoop de 30 grammes, bien là, on voit que le ratio n'est pas le même. Fait que ça, c'est la première chose à analyser. Après ça, c'est d'analyser les compagnies. Donc, c'est sûr que s'il y en a beaucoup sur le marché, donc là, ça, c'est un petit peu un travail plus ardu à faire parce qu'il faut analyser si la compagnie a une certaine notoriété. Donc, tout ce qui est nouvelle compagnie est toujours à faire attention parce qu'elle ne veut pas être comme... Tu sais, c'est un marché qui fait des milliards. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui s'intègrent dans le marché avec des produits de bas de gamme pour essayer d'aller chercher un peu de profit là-dedans. Donc, c'est d'analyser la compagnie. Ça fait combien de temps qu'elle est là? C'est quoi un peu? Est-ce qu'ils ont des normes? Il y a des normes qui s'appellent NSF, USP, Consumer Lab. Donc, c'est des normes qui sont de haute qualité où ce que les... Des fois, ça rejoint les compagnies pharmaceutiques au niveau de standards, au niveau des laboratoires. Donc, on va essayer de retrouver ces logos-là sur les produits ou d'essayer de voir l'image aussi. Quand on va sur le site de la compagnie, c'est quoi l'âme de la compagnie qu'elle dégage? C'est quoi les valeurs de la mission de l'entreprise? Est-ce que c'est justement d'avoir des produits de qualité pure? Et c'est sûr, il y a un autre aspect qui est plus difficile, mais c'est dans les recours en justice. Il y en a certaines, je pense à Muscle Farm, par exemple, qui est une compagnie... étiquette noire, logo vert, on retrouve un peu chez Costco ou autres. C'est des compagnies qui ont été en justice parce qu'ils avaient fraudé au niveau de la quantité des protéines. Ben, ils annonçaient, exemple, sur le pot qu'il y avait 21 grammes de protéines par scoop. Après analyse, ils en avaient 10. Donc, ils avaient 50 % et c'est une des raisons pourquoi ils étaient capables d'être vendus moins cher. Donc, c'est sûr que pour moi, quand je vois ça passer pour des poursuites, si une compagnie fait ça avec un de ses produits, elle risque de le faire avec l'ensemble de ses produits. J'aime pas ses valeurs, sa mission. Donc, moi, il y a tellement de compagnies sur le marché que moi, je la mets de côté puis c'est terminé à vie. Pour moi, elle a perdu ma confiance. Donc, ça fait que c'est... Mais ça, faut être au courant, faut le voir. Mais c'est de s'informer, mais juste... j'ai pas de recette magique pour dire telle compagnie, voici les critères, puis vous allez trouver exactement. Ouais. C'est vraiment d'y aller après ça au goût. Je dirais dans les boutiques d'aliments de santé, donc on parle des shops santé, des Popeyes, des Rachel Berry, des Alimento, etc., les qualités sont quand même assez intéressantes. Plus que dans les grandes surfaces comme les Walmart, les pharmacies, on a vraiment des meilleures qualités de produits dans les boutiques spécialisées. Fait que ça, c'est déjà un bon point. Puis après ça, une fois qu'on a deux points entre les mains, on peut comparer les produits. C'est sûr que dans la whey, on va trouver différents types de suppléments de lactosérum. Il va y avoir la whey, il va y avoir la iso, puis il va y avoir l'hydrosila qu'on appelle. Puis dans la majorité des cas, les gens devraient prendre de la whey. C'est elle qui est la moins dispendieuse et qui contient un peu de lactose à l'intérieur. Donc, si la personne tolère bien les produits laitiers, aucun problème. Souvent, les gens, je les vois sélectionner la iso parce qu'elle est plus pure, elle est plus concentrée en protéines, mais on s'entend, une whey va contenir 1-2 grammes de gras, 1-2 grammes de sucre. Puis la iso va contenir juste des protéines, mais 0 grammes de gras, 0 grammes de sucre. On n'est vraiment pas à 1-2 grammes. C'est le coin d'un craquelin. Je veux dire, c'est vraiment pas grand-chose pour choisir. Sauf que au lieu de payer, exemple, 60 $ pour un pot, on va payer 90 $. Donc, le 30 $ supplémentaire n'est pas justifié du tout pour aller chercher. Est-ce qu'on va avoir 1,5 fois les gains que la whey va nous apporter? Pas du tout. Fait que le prix n'est pas justifié, à mon sens. C'est vraiment pour les personnes qui ont des grosses intolérances au niveau du lactose. Donc, pour s'assurer qu'ils n'en ont pas à l'intérieur. Et l'autre choix qui va s'offrir, souvent, c'est les hydrosilas. Donc, les hydrosilas, c'est des protéines qui sont coupées. Donc, au lieu d'avoir une grande chaîne de protéines, c'est vraiment bien découpé, ce qui fait que ça se dissout très facilement au niveau de l'eau. Ça a moins l'aspect laiteux. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'aspect laiteux crémeux du lait, ce qui fait que les hydrosilas vont avoir un aspect un peu plus jus, ce qui est quand même intéressant au goût pour ces personnes-là. Sinon, c'est vraiment pour les personnes avec, par exemple, la fibrose kystique. Donc, les gens qui ont de la difficulté au niveau de la digestion, parce que, exemple, une personne avec la fibrose kystique va avoir des blocages au niveau du pancréas, ce qui fait que les enzymes digestives ne pourront pas sortir du pancréas pour tomber dans l'intestin et faire leur job de découper les protéines. Donc, de prendre une protéine déjà découpée va aider l'assimilation pour ces personnes-là. Ça, c'est la prémisse de base. Mais il y a des gens, vu qu'ils n'aiment pas l'aspect crémeux, vont prendre l'aspect hydrosila, qui est plus dispendieux aussi.
Tantôt, tu me disais là, que, dans le fond, ils donnent du lait séché, là, si on veut, aux personnes qui ont des difficultés là, à avaler ou des trucs comme ça dans les hôpitaux. Ouais. On ne devrait pas faire la même chose. T'sais, si, mettons, je suis pour mettre de la protéine dans mes barres tendres, mettons, ou dans mes collations que je prépare pour mes fils à l'école, ben, ouais. Je suis pour mettre des protéines dedans. T'sais, ça vaut-tu vraiment la peine d'acheter la protéine, je ne sais pas, d'une marque là, dans un centre comme Popeyes, alors que je pourrais, mettons, acheter du lait séché, là, du lait en poudre, puis rajouter ça dans mes barres tendres, mettons?
Oui, sauf que je ne sais pas où qu'on peut s'en procurer. C'est juste ça que les épiceries ne tiennent pas du lait évaporé. Donc, ce serait juste de voir si c'est possible. Et souvent, ces poches-là sont sans saveur. Donc, ouais. C'est sûr que là, ça devient des fois un peu moins intéressant si on le prend seul. Donc, il n'y a pas beaucoup de consommateurs qui recherchent le produit. Donc, il faudrait voir est-ce que c'est accessible ou peut-être que les grandes surfaces comme les Amazon de ce monde, etc., pourraient nous permettre d'acheter des poches de lait évaporé, voir c'est quoi le prix versus les... Donc, ouais. Et voir aussi la solubilité. Donc, c'est sûr qu'en tant que consommateur, ce qu'on cherche aussi, c'est un produit qui ne fait pas ce qu'on appelle en bon français des motons. Donc, des agglomérations là, qui vont se faire. Donc, ouais. Ça fait que c'est moins, moins intéressant. Donc, c'est ce que les compagnies... Justement, vont essayer de faire. Ils vont essayer de créer des filtrations puis pour que le mélange se mélange super bien. Là.
Pour un shake, là, je ne m'essayerais pas à créer ma propre recette de shake avec du lait évaporé. Sauf que si c'est pour rajouter dans une recette, il y a déjà une saveur dans la recette, je pense que ça pourrait le faire. Là. Je me souviens d'en avoir déjà acheté à l'épicerie, ça fait longtemps, là, mais je me souviens d'avoir déjà acheté ça, soit dans une épicerie ou genre dans une pharmacie. Là,
Faudrait juste analyser le prix, voir si c'est quelque chose d'intéressant. Puisqu'il y a des compagnies, là, je pense à Believe, qui est une compagnie qui, elle, fait des produits aussi, des sacs sans saveur. Puis tu peux acheter après ça la saveur à côté là, pour l'ajouter, mais tu aurais déjà une protéine sans saveur. Il faudrait juste comparer le prix par rapport au aux marques de ces compagnies-là versus le en vrac, si on peut dire. Ce serait quelque chose à regarder. J'y ai pensé aussi en même temps que je te parlais, que tu mentionnais. Tu sais, j'ai dit quand on choisit une protéine de comparer deux pots avec la même quantité de scoop, là, de grammes. Donc, par exemple, que ce soit deux scoops de 30 grammes pour vraiment faire le bon comparatif. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'il faut que à chaque fois qu'on rachète même le même pot, toujours regarder parce que l'étiquette peut changer. Donc, le fabricant peut faire un scoop de, par exemple, un scoop de 30 grammes pour 23 grammes de protéines. Puis après quelques mois ou années, il tombe à 35 grammes pour 23 grammes de protéines. Le nombre de grammes de protéines reste pareil, sauf la grosseur du scoop augmente, ce qui fait que tu en as moins dans ton produit. Donc, c'est un peu comme les sacs de chips qui sont rendus vides beaucoup plus en haut, mais ils ont gardé le même format, que les pots de croton qui sont rendus creusés en dessous, mais le même format. Donc, ce qui fait qu'on vient à nous biaiser de cette façon-là. Fait que c'est juste d'analyser si des fois la compagnie prend une tangente comme ça. Et aussi de faire attention à ce qu'on appelle les property blends, donc les propriétés du mélange. Quand on regarde une étiquette, il faut qu'elle soit le plus simple possible. Donc, ce que je veux voir protéines de lactosérum, stevia, peut-être des saveurs naturelles, etc. Je ne veux pas avoir le mot marqué « propriété du mélange », ouvre la parenthèse, voici ce que je mets dedans. Je vais mettre de la taurine, je vais mettre de la... Donc, ce qui fait que là, quand tu vois une propriété du mélange, pour moi, c'est comme l'information actuelle est tellement disponible que les gens sont de plus en plus informés. Pourquoi le fabricant me met une propriété du mélange et me dit « voici tout ce que j'ai mis dans le produit », fermeture de la parenthèse. Pourquoi tu ne me donnes pas la quantité qui est présente? Puis c'est parce que dans les produits où il y a des propriétés du mélange, souvent, on utilise le trichage. Le trichage, c'est quoi? C'est quand on vient à mettre de la protéine dans un pot, bien, on pourrait avoir, normalement, on aurait 100% de protéines. Mais il y a des compagnies, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre 50% de protéines parce que ça coûte moins cher et ils vont mettre de la créatine, de la taurine, de la glycine, qui est un acide aminé, pour remplir. Ce qui fait que quand Santé Canada va venir faire un test d'azote, en vrai, le test d'azote, c'est parce que dans les protéines, c'est le seul macronutriment qui contient de l'azote à l'intérieur. Ils vont être capables, ils vont analyser le produit, ils vont faire « Ah, OK, vous avez vraiment tant de grammes de protéines. » Sauf qu'il y a eu du trichage à l'intérieur pour... Donc, il y a des compagnies comme ça, c'est là quand je dis que je veux qu'on recherche les valeurs, qu'on recherche aussi les commentaires des clients par rapport à la compagnie, par rapport à... C'est pas tout le temps facile à détecter, mais c'est un peu ça à faire attention. Fait que nous, en tant que consommateurs, la façon d'éviter ça, c'est de ne pas acheter des produits avec des propriétés du mélange là, qui est marqué.
OK. Tantôt, tu me parlais de deux genres de certifications là, qui étaient à rechercher sur les pots. C'était quoi déjà?
NSF. Et USP.
USP.
Puis tu as aussi Consumer Lab. Donc, c'est en vrai, c'est des laboratoires indépendants qui vont analyser les produits. Mais pour ça, il faut que le fabricant fasse la demande. Donc, ce qui fait que le fabricant fait la demande, ça lui coûte un coût parce qu'il faut payer le laboratoire indépendant pour qu'il mette son sceau sur tes produits. Mais ça démontre un peu la bonne foi du laboratoire là, qui est prêt à investir dans sa qualité de produit pour avoir une assurance pour que le consommateur soit assuré que ce qui est marqué sur la liste des ingrédients soit là.
Parfait. Ma dernière question, là, ce serait, est-ce qu'il y a des inconvénients à prendre des protéines, des risques, mettons, reliés à la consommation de ces produits-là?
Il n'y a pas d'inconvénient qui est présent, outre que, écoute, là, comme je dis, si on prend du lait, c'est quoi les inconvénients au niveau des protéines du lait ou des vestes? C'est juste un aspect déshydraté, fait que c'est pas la même chose que du lait. Puis je ne veux pas rentrer dans ce débat-là pour ou contre au niveau des produits laitiers. Dans le lait, il y a plus la caséine qui est présente, qui est une autre chose. Là, on parle du petit lait. C'est plus que ce qui serait à faire attention, c'est si les gens ont des intolérances au lactose, des gens ont des intolérances aussi au sucralose, donc qui est un édulcorant qui est à l'intérieur. Il y a des gens qui ne tolèrent pas très bien ces édulcorants-là. Donc, ce qui fait que c'est là qu'il faut se retourner plus vers le stevia, ce que, exemple, ATP Lab, une autre compagnie utilise beaucoup, que j'apprécie. Donc, ce qui fait que c'est plus, mais est-ce qu'il y a des inconvénients réellement? Moi, je vois plus d'avantages que d'inconvénients, justement pour augmenter le niveau de protéines que j'ai parlé. Il y a un aspect aussi que certaines études ont enlevé la moitié des protéines d'une journée d'une personne et l'ont remplacé par de la protéine en poudre. Exemple, qu'une personne consomme 150 grammes de protéines dans une journée, on va en mettre 75 grammes sous forme de protéines en poudre, puis l'autre 75 sous forme de viande, poisson, et on constate qu'il n'y a aucun changement au niveau de la composition corporelle. Donc, il y a comme une égalité qu'on peut se permettre, étant un aliment, dans un certain sens, pour être capable de le substituer par certains repas. Je le vois moins comme un supplément, la protéine en poudre. Je le vois vraiment comme dans la catégorie aliment. Parce qu'exemple, les protéines en poudre, c'est une forme simple au niveau des protéines. Est-ce que la farine, c'est un supplément en glucides? C'est, si on comparait les choses à part égale, de la farine, c'est des glucides en poudre. On va dire des protéines en poudre pour l'autre. Lui, on dit, mais on ne le voit pas comme ça, parce que dans nos mœurs, c'est quelque chose de courant. De l'huile, c'est du gras à sa forme la plus simple. Donc, on l'utilise en cuisine. Fait que les protéines en poudre devraient être placées sur la même tablette que la farine parce que c'est la même chose, d'un certain sens, ou le sucre. Donc, ce qui fait que c'est juste que ce n'est pas encore perçu comme ça, ça n'a pas été utilisé. Ben,
là, je suis obligé de dire que les entreprises qui mettent en marché des protéines sont un peu coupables. Parce que, tu sais, si leur étiquette avait l'air d'un aliment, ben, probablement qu'on considérerait plus ça comme un aliment, mais tu sais, l'étiquette, généralement, va promettre ou va faire miroiter des gains de masse musculaire, des pertes de poids rapides.
Exactement.
On ne peut pas dire que c'est simplement les consommateurs qui ne voient pas ça de la bonne façon. Les entreprises qui mettent en marché ces protéines sont aussi coupables.
C'est la conséquence. Le consommateur ne voit pas ça de la bonne façon par sa faute, par la faute de l'industrie qui a mis l'image. Je suis entièrement d'accord avec toi. Fait que c'est sûr que si, exemple, les épiceries prenaient le relais et me plaçaient sur les tablettes justement avec un sac très neutre, très santé, avec un verre, probablement que le consommateur prendrait confiance, puis on serait ailleurs. Fait que au niveau des avantages, c'est un peu l'aspect qu'on peut le remplacer, d'une part comparativement au niveau des viandes. Il y a le côté commodité aussi qui est vraiment intéressant au niveau des protéines, c'est qu'on peut l'utiliser n'importe où. Donc, c'est pas comme une viande ou un poisson qu'on doit traîner un ice pack pour être capable de le préserver. C'est sec, c'est un produit qui peut se traîner dans un pot. On rajoute de l'eau, on le mélange. Fait que pour assouvir les besoins de protéines dans la journée, ça se fait super bien. Le côté calories aussi, c'est une façon d'aller chercher nos protéines, point. Donc, c'est pas que je vais aller chercher un steak haché qui va provenir avec des graisses, donc, ce qui fait que là, on augmente des fois le bilan calorique, surtout chez les gens qui veulent aller chercher un certain niveau de protéines, mais pas dépasser un certain niveau de calories parce qu'ils veulent. Ils veulent perdre un peu de poids, ils veulent faire attention à ce niveau-là. Donc, il y a un aspect calorique qui peut être fait attention. L'appétit, on en a parlé, surtout chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées, l'appétit n'est pas très élevé. Donc, ce qui fait que vu qu'ils n'ont pas un grand appétit, ils vont manger un peu moins de poisson, un peu moins de viande. Donc, ce qui fait que le rapport en protéines est plus faible. Et ce qui se passe, c'est qu'on le voit aussi avec la société, c'est que les gens qui sont vieillissants souffrent de sarcopénie. C'est quoi la sarcopénie? C'est une perte de masse musculaire dans le temps quand on arrive à dépasser 60-70 ans. Donc, ce qui fait que ça va nuire à l'autonomie au niveau des habitudes de la vie quotidienne. Donc, on a besoin de garder notre masse musculaire en vieillissant. Et pour ça, oui, il y a la musculation qui va être utile, mais avoir un niveau de protéines élevé va être intéressant. Si on n'a pas faim, ça va être difficile. Donc, de là, d'avoir un peu des suppléments de protéines en poudre. Donc, c'est plus facile pour une personne âgée de boire quelque chose sous forme de smoothies que de prendre, exemple, une grande quantité de viande ou poisson pour assurer ça.
Au niveau des risques, est-ce que des fois, il y a des suppléments dans lesquels il va se retrouver d'autres substances qui, si on est un athlète de haut niveau, pourraient nous amener à tester positif à un test antidopage ou qui pourraient nous amener à prendre des substances qu'on n'avait pas le goût de prendre? Mettons, y a-t-il un risque à ce niveau-là?
Effectivement, il y a un risque. C'est pour ça qu'on peut regarder les compagnies qui ont une meilleure vision valeur. Là, je cherche le nom ne vient pas. Il y a une compagnie qui on peut soumettre c'est Sport Certified. Donc, en vrai, c'est le côté, j'oublie la mention exacte, là, mais il y a une compagnie, même principe que le NSF ou le ESP, où ce qu'on peut envoyer nos suppléments, ils les analysent sur la liste des produits antidopants, et après ça, ils envoient le logo que la compagnie peut afficher sur les produits, que ce soit les produits ou que ce soit le laboratoire. Là, je mentionnais tantôt ATP Lab. ATP Lab, leur laboratoire est certifié par cet organisme-là, ce qui fait qu'on s'assure que le laboratoire est exempt de produits dopants, ce qui fait que pour les athlètes, c'est une sécurité en disant « j'ai l'assurance du laboratoire qui me dit que leurs produits ne contiendront pas », surtout quand on est des joueurs professionnels de la NFL, de la LNH, on veut s'assurer ça pour ne pas être mis de côté. Donc oui, c'est possible, mais il faut juste rechercher le saut.
OK, très, très bien. Le mot de la fin, Kevin, est-ce que à faire un résumé en lien avec les protéines, ce serait quoi, mettons?
En fait, c'est de continuer à s'informer, de ne pas en avoir peur. Donc, c'est vraiment de l'intégrer, de l'essayer, de trouver. Après ça, c'est trouver sa saveur qui peut. Donc, si je prends 10 marques de protéines au chocolat, ça va être 10 saveurs qui vont être différentes parce que chaque compagnie essaie d'attirer une certaine clientèle. Donc, c'est de trouver celui qui nous plaît puis ne pas avoir peur à l'intégrer. C'est sûr que c'est du nouveau. Ça a un goût qui peut être particulier quand on est dans les premières fois, mais de l'intégrer. Il y a tellement de recettes qui se font maintenant, que ce soit des muffins avec des protéines, que ce soit avec des bars, que ce soit. Donc, d'essayer de le mettre plus en pratique au niveau de notre aspect culinaire, pour être capable d'avoir un niveau de protéines qui est plus élevé, puis d'aller le ressentir au niveau de l'appétit. Moi, c'est quelque chose que je constate souvent. Puis avec ma clientèle aussi, qui est en perte de poids, en perte de masse adipeuse, j'aime mieux dire, l'appétit est assez important parce qu'à chaque fois que la personne a faim, c'est là qu'elle veut déroger, qu'elle veut manger plus, qu'elle veut. Donc, ça nuit au succès pour l'accomplissement au niveau des résultats que la personne va aller chercher. Donc, d'avoir un régime, une structure alimentaire qui permet de ne pas avoir faim durant la journée. Puis on s'entend, ce n'est pas juste les protéines qui coupent la faim, les fibres aussi vont avoir un impact. Puis, mais de l'intégrer plus fréquemment au travers de la journée, ça aide la personne sans impact négatif, juste d'aller chercher l'aspect positif puis d'avancer sans avoir trop à avoir des bâtons dans les roues puis de se battre contre soi-même pour essayer de se contrôler et ne pas avancer. Fait que c'est un peu mon mot de la fin, c'est vraiment de l'essayer, d'aller dans des boutiques qui sont plus spécialisées comme Shop Santé, Popeye, celle que j'ai nommée.
Cool, ben c'est cool. Merci, Kevin. T'sais, je pense que c'est une approche qui est sensée, qui est équilibrée, là, dans le sens que c'est pas vrai que les protéines, ça va régler tous nos problèmes. D'un autre côté, ça peut être un supplément qu'on utilise de façon, un aliment, là, comme tu aimerais que je dise peut-être, mais un aliment qu'on peut utiliser pour améliorer notre santé, se sentir mieux, avoir moins faim, rendre notre musculation plus efficace. Fait que je pense que il y a un équilibre à trouver là-dedans. Si on veut te suivre, avoir d'autres de tes conseils, c'est quoi les meilleures façons de te suivre?
En vrai, c'est sur mes réseaux sociaux. Donc, idéalement, j'ai mon page professionnelle Facebook qui est Kevin Arsenault, kinésiologue, ou sinon mon compte Instagram, Kevin Arsenault, K-E-V-E-N, Arsenault, E-A-U-L-T, avec underscore, donc petite barre en bas. Je place plein de publications au niveau entraînement, nutrition, supplémentation. Je place des vidéos aussi. J'ai écrit un livre sur l'entraînement qui est la Bible des stratégies et planification d'entraînement. Donc, plus de 230 techniques. Donc, je place toutes des vidéos de ce que vous pouvez faire dans vos entraînements pour essayer de donner des idées autant aux coachs que ceux qui trippent dans le domaine d'entraînement comme moi.
Cool, ben bon entraînement tout le monde. Merci beaucoup Kevin pour ton temps. C'est toujours apprécié de sortir un peu les connaissances de ton cerveau puis essayer de nous les approprier. Là, c'est très apprécié. Merci beaucoup.
Merci Daniel de l'invitation. Salut.
Salut.